بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شيخ خير سؤال الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne l'opportunité de vivre ce mois de Ramadan 2018. Nous devons être conscients que nous sommes en train de vivre un mois exceptionnel. Nous sommes en train de vivre certainement le meilleur mois de l'année et certainement les meilleurs jours de notre vie, les jours les plus profitables. Et qu'est-ce qu'on appelle un jour profitable? Comment est-ce que dans l'islam on analyse le temps qui passe? Et qu'est-ce qu'on appelle un waqt nafi'a, un laps de temps qui nous apporte quelque chose? C'est quand ce laps de temps nous permet de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de préparer notre akhira. Ainsi, le mois de Ramadan, sans le moindre doute, c'est la meilleure période de l'année et de notre vie pour nous rapprocher d'Allah et pour préparer notre akhira. Ainsi donc, on doit remercier Allah Azza wa Jal qui nous donne cette chance donc de vivre ce mois béni et surtout, sachons nous montrer dignes de ce bienfait. Prenons conscience de la valeur de ce mois afin de lui donner son droit, afin de le vivre correctement, avec respect et considération. On a certainement entendu l'expression en arabe tahsin al-sawm. Quand on parle de tahsin al-sawm, c'est accomplir le jeûne de façon parfaite, de façon réfléchie, en réunissant les conditions que le croyant se doit de réunir pour n'importe quel acte d'adoration et plus encore pour l'accomplissement du jeûne. Et cela, la différence de celui qui jeûne en s'abstenant uniquement de manger et de boire sans se soucier des autres interdits, sans se soucier de l'éthique du croyant lorsqu'il accomplit ce pilier de l'islam. C'est pour ça qu'on avait dit qu'on a besoin de montrer, on se doit de se montrer digne de ce bienfait et de donner à ce mois de Ramadan son haqq, son droit et de le vivre correctement avec respect et considération. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa salam avait rappelé aux sahaba Atakum Ramadan, Shahru Barakah. Oh sahaba, le mois de Ramadan est arrivé, Shahru Barakah, un mois de bénédiction. Yurashikumullahu fihi birrahma. Allah vous couvre de sa clémence et de sa bénédiction. Et Allah pardonne les péchés. Et durant ce mois, Allah accepte les du'as, les invocations. Et Allah est fier de nous auprès de ses anges. C'est-à-dire quand Allah Rabbul Izzah nous voit, subhanallah, accomplir les bonnes actions du matin et du soir, Allah nous vante auprès des malaïkas. Et Allah observe notre assiduité, notre constance, notre application dans les bonnes actions. Quand on accomplit de bonnes œuvres, on se lève pour le tahajjud, on doit être conscient qu'Allah Azza wa Jalla nous observe et Allah regarde et analyse notre concentration et notre esprit de sacrifice. Fa'arullaha min anfusikum khayra, pour ça me dit aux sahaba et à nous tous. Montrez donc Allah Azza wa Jalla toute votre bonne volonté, parce que la pire des personnes, c'est celui qui se voit privé de la clémence d'Allah durant ce mois. Dans un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit aux sahaba au début du mois béni, Atakum shahru Ramadan, shahru mubarak, faradallahu alaykum siyama. Allah a prescrit le jeûne de ce mois, tuftahu fihi abwabul jannah. Les portes du paradis sont grandes ouvertes durant ce mois béni. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quand on dit que les portes du paradis sont grandes ouvertes, y a-t-il donc des candidats? Y a-t-il donc des personnes qui veulent mériter? Ou alors plutôt des personnes qui postulent pour réunir les qualités, pour être acceptées et entrer dans ce Jannah? Le moment le plus propice de toute l'année pour avoir son bon d'accès au Jannah, c'est durant le mois béni, durant le mois de Ramadan. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ. Les portes de l'enfer sont fermées durant ce mois. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ. Les shayatines sont enchaînées. وَفِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. Et il y a de ce mois une nuit qui vaut plus de 1000 mois. Donc,
Hadith Imam Ahmed de Tirmidhi et de Nasa'i. Qu'est-ce qu'on retient de la synthèse de ces deux hadiths? Mois de Ramadan, mois de baraka, de bénédiction. Mois de Ramadan, mois de clémence divine. Et on va insister sur la notion de rahmat d'Allah durant ce mois béni. Mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, portes de l'enfer fermées, ça on a expliqué. Les shayatines ne peuvent plus nous influencer comme ils le faisaient en dehors du mois béni. Le nafs qui est ammaratum bisou, le nafs, l'ego, les passions qui poussent l'homme à accomplir le mal, est considérablement affaibli et maîtrisé par le jeûne. Les bonnes actions ont plus de valeur. N'importe quelle bonne action qu'on va accomplir durant le mois de Ramadan, ben on verra les récompenses, le jour de Qiyama, on les verra multipliées. Le pardon d'Allah durant ce mois est immense, beaucoup plus que durant les autres mois de l'année. Et qu'est-ce qu'on doit déduire de cette annonce prophétique qu'Allah pardonne durant ce mois béni? C'est-à-dire que la réaction maintenant, après avoir écouté ce texte, c'est d'orienter nos cœurs vers Allah et de demander sincèrement pardon pour l'ensemble de nos péchés. On doit faire exactement, sans exagération, exactement comme si qu'on s'était inscrit pour le Hajj, et qu'on était au Hajj, et que le Wukuf Arafat commençait là dans 10 minutes, dans quelle serait notre préparation psychologique et spirituelle, et comment, durant ces quelques heures du Wukuf, on demanderait dua avec ferveur, dévotion, concentration, sincérité. Ben, telles doivent être les qualités que nous devons réunir lorsque nous demandons pardon à Allah durant ce mois béni, et avec cette même conviction que quand on fait dua pendant le Hajj, on est sûr et certain, on demande istighfar, qu'Allah accepte le pardon. Mais le Prophète nous a annoncé وَيَغْفِرُ فِيهِ الْخَطَايَا, qu'Allah pardonne les péchés durant ce mois béni. C'est-à-dire qu'il y a l'information, il y a le ilm, la connaissance, ce qu'on entend, les vertus, ce qu'on appelle les fadha'il, al-a'mal, que nous connaissons tous. Ces hadiths-là, on ne vous apprend rien. En fait, aujourd'hui, on ne va rien apprendre de nouveau. Ça, c'est les interventions que j'aime le plus. Où il n'y a aucun élément nouveau par rapport à ce que vous avez déjà écouté dans d'autres assemblées avec différents intervenants, ou pour les enfants, ce qu'ils ont déjà appris à la madrasa. On va apprendre à mieux comprendre et à mieux pratiquer les bases que nous avons déjà, et essayer d'analyser quels sont les manquements que nous avons dans nos bases. Qu'est-ce qui fait que nos actions ne prennent pas l'ampleur requise pour atteindre le ihsan, pour atteindre les hauts niveaux, les hauts degrés de la foi? Ça va être notre analyse, et essayer de travailler nos bases pour recadrer un petit peu les manquements que nous avons dans le cœur, dans notre cœur. C'est ce qu'on appelle le tazkiyat an-nafs. Quand le prophète alayhi salat wa sallam était envoyé, c'est pour وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Il y a l'enseignement du livre, leur apprendre ce qu'Allah a révélé. Mais le tazkiyat, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, notre conception des choses, notre façon de pratiquer, et dans cette façon-là, on décèle parfois ce qu'on appelle des amrad al-qalb ou amrad al-qulub, les maladies spirituelles, les maladies du cœur. Et ikhwan fillah, on doit être persuadé et on doit avoir cette conviction que tant qu'on n'arrive pas à nettoyer les manquements qu'il y a de notre cœur, nos bonnes œuvres ne vont pas décoller et resteront au ras du sol. Même si le devoir est accompli, nos salats ont été accomplis, le hajj était accompli, et inshallah, Allah est tellement clément, tellement miséricordieux, qu'il nous attribuera et nous donnera les récompenses. Mais nous visons quoi? Nous visons l'excellence. Qu'est-ce qu'on vise, nous? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah accepte des pieux. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nous souhaitons être les meilleurs, les guides, on pourrait dire les leaders parmi les pieux, c'est-à-dire les plus pieux serviteurs d'Allah. Et si on veut atteindre ce haut degré, on a besoin de travailler tant les a'mal al-quloub, les actions intérieures, que les actions extérieures. Pourquoi est-ce que on va insister sur les a'mal al-quloub de cette intervention? Parce que dans ce mois béni, chaque personne de cette assemblée, tant du côté des messieurs que du côté des dames, nous excellons dans les bonnes actions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une période de l'année où on accomplit autant de bonnes actions que durant ce mois béni. Hein, Souleyman? Sahih ou ilala? C'est vrai, c'est pas vrai? Il n'y a peut-être pas un mois, après Allah seul sait les actions cachées des gens, mais je ne sais pas, est-ce que durant un autre mois de 29 ou de 30 jours de l'année, est-ce qu'on est assidu aux 30 tahajjud? Il se peut que le jeudi soir on se réveille, ou une fois de temps comme ça. Après, certainement il y a des pieux parmi nous, et alhamdoulilah qu'on ne connaît pas l'intérieur des gens. C'est un grand ni'ma de ne pas pouvoir juger personne. Il y a peut-être des gens qui le font, mais La plupart des croyants, on attend le mois de Ramadan pour être vraiment assidu à sa lecture du Coran. On attend le mois de Ramadan pour être vraiment régulier dans le tahajjud, comme on a dit. On attend le mois béni pour vraiment passer du temps dans les doigts. Et quand je dis faire doigts, c'est pas le doigt mode flash, ou alors le doigt taqlidi qu'on fait derrière l'imam, on dit amin, amin, sans savoir. Est-ce qu'il a demandé le paradis ou il a demandé protection contre l'enfer? Est-ce qu'il a demandé la barakah de la subsistance ou la santé? Sans réellement comprendre, on dit amin. C'est pas ça le doigt qui est requis. C'est cette relation du cœur avec Allah. Et c'est dans le mois béni que nous nous retrouvons tous sur notre musalla à 4h30 du matin, 5h moins de quart, à 5h, en fonction de notre niveau, les mains levées. Et on demande à Allah, sans qu'il n'y ait quelqu'un pour nous assister, pour faire doua. On demande dans notre langue, si on parle français, on parle ourdou, on parle créole, peu importe, on parle arabe. On demande à Allah ce qui nous est important. Et avant de rompre le jeûne, voyez les gens. Regardez cette masjid, comment elle est illuminée. Et toutes les masjid, quels que soient les endroits où il y a des gens qui rompent le jeûne, regardez cette rahma qui descend. Regardez ce nour qui se dégage. Regardez la ferveur. Regardez la concentration. Analysez, admirez la dévotion. Est-ce que à 17h45, est-ce que vous voyez des gens en train de discuter près du poteau de la masjid? Est-ce que vous voyez des gens en train de vérifier leur portable, leur notification, perdre leur temps dans autre chose? Non! Nous sommes tous en train de faire doua. Les messieurs à la masjid, ou ceux qui rompent le jeûne chez eux en famille, et les dames certainement chez elles, tout le monde est, subhanallah, est perdu dans les doigts. Parce que nous avons cette conviction qu'avant de rompre le jeûne, les doigts sont acceptés. Et nous avons énormément de choses à demander à Allah. Et nous avons énormément de soucis, de problèmes, et nous sommes persuadés que c'est maintenant qu'il faut les demander, c'est maintenant qu'il faut les exposer à Allah, afin qu'il nous écoute, parce qu'on s'est plié à ses ordres, on s'est soumis à lui, on a respecté notre engagement de Allahumma inni asumu radan, c'est-à-dire en ce jour, laka, ou Allah, je fais l'intention de jeûner en ce jour. C'est-à-dire que ça, c'est ta'ahud. Je me fais la promesse, ya Allah, aujourd'hui je jeûne. C'est-à-dire, aujourd'hui, depuis cet instant, jusqu'au ghuroub al-shams, je ne mange pas, je ne bois pas, et je n'approche pas mon épouse si je suis marié. Ça, c'est mon engagement, et je vais le respecter. Et quand arrive le moment de rompre le jeûne, je me présente devant Allah en ayant respecté mon contrat du jour. Et je sais que ce travail-là mérite salaire. Et mon salaire, ma rétribution, ma récompense, c'est quoi? Je suis en train de le demander avec conviction. Mais c'est uniquement durant ce mois qu'on a ce yaqin. C'est uniquement durant ce mois que nous sommes de le dhikrullah, qu'on ne perd pas son temps devant la télé. C'est uniquement durant ce mois que lorsqu'on sort dans la rue, quels que soient les endroits, on contrôle son regard, on n'écoute pas la musique, on contrôle ses paroles, on fait attention au riba, à la médisance. C'est-à-dire que le summum, il y a un terme, le paroxysme de la foi du croyant, il est atteint durant ce mois béni. Si on veut voir le meilleur Suleyman de l'année, le meilleur Bilal de l'année, le meilleur Ibrahim de l'année, le meilleur Abdul Majid de toute l'année, c'est durant chaque Ramadan de l'année. Vous êtes d'accord? C'est comme ça. Et ça découle de la rahmat d'Allah. Et c'est sur ce point qu'on va peut-être prendre le tiers du temps de l'intervention. On a besoin de réaliser que durant ce mois béni, nous sommes couverts par la rahmat d'Allah. Et quand Allah veut du bien pour une personne, qu'est-ce qu'il lui accorde? Il peut lui accorder la bénédiction de ses biens, la réussite de son travail, la santé, se marier s'il en a besoin, des enfants s'il n'en a pas, c'est-à-dire l'acceptation de ses invocations, oui. Mais la plus grande manifestation de clémence d'Allah, de rahmat d'Allah, c'est quand Allah te tire « min al-zulumati ila al-nur ». Quand Allah te tire de l'obscurité, il te ramène vers la lumière. C'est quand Allah te réveille de ton lit. Dites-moi, comment est-ce possible que durant le mois béni, à 3h30, tac, les yeux s'ouvrent, bi'idhnillahi wa karamihi wa fadlihi wa tawfiqi. Alors qu'en dehors du mois béni, on met des réveils sur le chevet, on met un deuxième réveil sur la table de nuit, et un troisième qui est à 5 mètres, mais malgré ça, on ne se réveille pas ou on a du mal à se réveiller. Et Juan, il fut là, on doit réaliser quelque chose. On n'est pas assidu aux bonnes œuvres. C'est un peu complexe, hein? Mais suivez, on n'est pas assidu aux bonnes œuvres parce que c'est le mois de Ramadan. Non. Vous pensez que quand on change le nom du mois, on devient des anges? Qu'est-ce qui fait que durant le mois de Sha'ban, j'étais comme tout le monde? Malheureusement, monsieur tout le monde avec ses défauts, ses erreurs, ses manquements, ses qualités, mais également, voilà nos faiblesses, et que tac, on voit la lune, on devient waouh, en mode hyper pratiquant. Est-ce que le changement du moi, du nom du moi, fait de nous des êtres meilleurs? Non. C'est que durant ce mois, Allah nous couvre de sa clémence. Allah a pitié de nous. Allah nous aime plus qu'en dehors du mois béni. Et Allah, lorsqu'il aime une personne, lorsqu'il veut le gratifier, lorsqu'il veut l'honorer, lorsqu'il veut l'élever, Allah le rapproche de lui. Allah nous réveille donc de notre sommeil du soir, même des fois si on se couche à 23h, à minuit, ça peut nous arriver, mais bi-idhnillahi, à 3h30, à 4h, on arrive à se réveiller sans être excessivement fatigué. Ça, c'est cadeau divin. Le fait que, subhanallah, on soit là maintenant, je vous pose la question, la semaine dernière, Souleyman, dimanche dernier à 10h53, tu étais où? Entre le manche biliani avec la famille, la plage, Colorado, pique-nique chemin volcan, on avait tous un plan, on avait tous un programme, ce qui fait de nous des êtres humains. Insan, Banu Adam, avec une vie de famille, avec des préoccupations, avec des loisirs, avec des passions, avec des priorités. Mais qu'est-ce qui fait que, direct, radicalement, là, on a un changement et qu'on est à la masjid? Et que la salle des dames en bas, elle se remplit au fur et à mesure de dames qui viennent écouter alors que ces mêmes dames, ces mêmes femmes étaient ailleurs la semaine dernière. Et qu'elles seront encore là dans 2 semaines et dans 3 semaines et ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous enlève du dunya pour nous ramener vers Baytin min Buyutillah, vers une maison d'Allah pour écouter un maw'iva, un rappel, avec présence des malaïkas au-dessus de nos têtes que nous ne voyons pas. Malaïka qui inscrit les noms et qui rapporte à Allah le nom des personnes présentes et qu'à l'issue de l'assemblée, Allah promet, il s'engage que ces personnes-là, leurs péchés ont été pardonnés. Et selon Imam Ahmad ibn Hanbal dans son musnad, les petits péchés ont été transformés en bonnes actions. Qui nous tire de l'obscurité pour nous amener vers cette lumière? C'est Allah Azza wa Jal. Et pourquoi ça se déroule durant ce mois? Parce que c'est le mois de la baraka, Shahru baraka, et c'est le mois de la rahma. Et quand Allah aime un serviteur, Allah l'amène vers le droit chemin. C'est pour toutes ces raisons que nous devons aimer passionnément le mois béni. Parce que si à cet instant T, l'ange de la mort entrait dans cette masjid, comme notre frère Mustafa vient d'entrer, et que le Malik al-Maut, il venait et reprenait l'âme de l'un d'entre nous, nous serions les plus heureux. Mourir dans Ramadan, mourir en état de jeûne, mourir dans la maison d'Allah, mourir alors qu'on a fait tahajjud ce matin, alors qu'on a fait 10 minutes de dua ou plus, mourir alors qu'on a fait salat al-fajr en jama'a, et qu'on est récité le dhikrullah dans l'étude du Qur'an, et qu'on a certainement fait le shuruq, et qu'on est venu d'une assemblée religieuse. Quelle? Ça, c'est ce qu'on appellerait, comment on dit ça en arabe? Husnul khatima. Parce que les actions qui comptent le plus, ce sont celles que nous accomplissons avant de mourir. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment du mois béni, si il nous arrivait de recevoir cette bonne nouvelle, de retourner vers Allah, on serait les gens les plus chanceux. Ainsi, nous devons être attachés profondément au mois béni. Surtout, ne le voyons pas comme un fardeau, comme une difficulté. Au contraire, réalisons que ce cadeau-là, Allah l'avait accordé aux autres peuples. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, mais ces peuples-là n'ont pas pu conserver et garder ce Ramadan, alors que pour nous, Ramadan Souleyman révélé en l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire à Madina, et là on est en quelle année? 1400? On est en 1439 ou 40? 1439, ça fait 1437 années que la Ummah jeûne. Abu Bakr Siddiq avait jeûné en l'an 2. En l'an 3, en l'an 4, jusqu'à sa mort, Omar ibn al-Khattab, les Sahaba, leurs fils, les Tabi'in, les Atba'i Tabi'in, les grands ulama, Bukhari, Muslim, Ibn Kathir, Abu Hanifa, Imam Malik, ainsi de suite. Et nous sommes les héritiers de cette pratique qu'Allah a légiférée pour cette Ummah et qu'il s'est garanti de protéger Alors que pour les autres peuples, ça n'a pas été protégé, ils l'ont perdu. Alors que pour nous, c'est toujours là. Ni'ma min Allah. Faveur de la part d'Allah, Azza wa Jal. Donc, ikhwani fillah, première chose à retenir, c'est qu'il y a une rahma qui descend. Allah nous amène, guide nos cœurs, à nous d'en tirer profit. Et pourquoi on va insister sur les actions intérieures? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le mois où on est le plus présent spirituellement, c'est maintenant. Ce qui nous manque, c'est, on pourrait dire, j'allais dire la touche finale, mais c'est pas la touche finale qui manque. Il manque le socle, il manque les fondations, il manque la base, il manque les ailes à ces bonnes œuvres, et il manque la touche finale pour que cette bonne action-là, elle nous apporte ce qu'elle a apporté à Abu Bakr al-Siddiq, à Omar, à Uthman, à Ali, c'est-à-dire aux sahaba qui, eux, avaient goûté ce qu'on appelle le halawatul iman, la douceur de la foi. Chose que nous ne connaissons pas malheureusement. Il y a des qualités intérieures que le prophète m'a dit qu'ils disparaîtront à la fin des temps. Entre autres le khushu', la dévotion de leur salat. On ne va pas rentrer dans deux sujets. Mais je veux dire qu'on a besoin de comprendre qu'il y a les a'mal al-qulub, les actions intérieures. Et il y a les a'mal al-jawarih, les actions externes, la prière, le dhikrullah, la lecture du Coran, ce que nous accomplissons. Et en ce moment, comme on multiplie les actions externes, on a besoin de travailler le côté intérieur afin que cette bonne action prenne son ampleur. C'est comme si qu'on avait énormément d'appareils à portée de main, mais on a juste besoin de les brancher pour que le travail soit fait et pour que le rendement soit vraiment optimal et réel. Et Juan et Fila, on a besoin de se poser une question. Quel est l'objectif final de ce mois intense? Parce que c'est un mois intense. On dort 4 heures par jour. On fait, mashallah, beaucoup de bonnes œuvres. On fait 20 rakats de tarawih. Les genoux tiennent. Le mollet tient. Le dos tient. Subhanallah. Et on se sacrifie pour Allah. Mais quel est l'objectif de ce mois intense? Je vais vous poser 4 questions incultes. Premièrement, y a-t-il un objectif? Ou alors le ramadan, c'est un simple rituel qui se répète tous les ans? Première question inculte. Deuxième question, est-ce que le ramadan c'est un rite comme on accomplit par exemple les actions du hajj, et quand les ayyam ou le hajj au-delà du 13 c'est terminé, ben, il n'y a plus personne qui va à Mina, il n'y a plus personne qui va à Arafat ni à Muzdalifa ou autre chose. C'est-à-dire que quand les ayyam ou le hajj sont terminés, les rites du hajj sont terminés. Est-ce que le mois de ramadan c'est comme ça, qu'il y a tahajjud, il y a toutes les actions qu'on a citées, mais quand c'est fini, tout est terminé? Alors que dans le hajj c'est ma'akoul. Au 14e, plus personne ne va à Arafat ou Muzdalifa ou autre chose. C'est normal, c'est limité par le temps. Les actions, tu devais les accomplir dans un laps de temps. C'est ce qu'Allah t'a demandé. Et quand c'est fini, n'y va plus, il n'y a pas d'intérêt. Mais est-ce que le ramadan, c'est pareil? C'est un rite. Vous suivez le développement. C'est un mois avec ces actions qu'on a citées. Et quand c'est fini, jazakallah khair, ahlan wa sahlan, à l'année prochaine, si Dieu le veut. Là, wallah, c'était la deuxième question inculte. Mais qui fait office également de claque spirituelle. Pas de vraies claques, on ne tape personne, mais de claques spirituelles. Parce qu'on a grandement besoin, hein, Mustapha, de claques spirituelles, d'électrochocs. Parce qu'on a tendance à nous endormir sur nos lauriers. On a tendance à penser, à croire que nous sommes vraiment de bons croyants. Parce que je m'habille comme ça, parce que je porte tel nom, j'ai peut-être tel titre et j'ai le Coran dans mon cœur, ou que j'ai tel degré de connaissance ou autre. Non, à moi, bon moun. Qui te dit que tu es un bon moun? Le bon moun, la personne pieuse, elle le saura uniquement lorsque l'ange de la mort vient et il l'entendra soit ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, ou autre chose, autre discours qu'on n'a pas envie de citer. Soit l'ange t'annonce que tu as été agréé par Allah, que ton parcours a été accepté par Allah, maintenant retourne vers ton Seigneur qui est satisfait de toi. C'est ce qu'on appelle la consécration. C'est ce qu'on appelle une vie à succès, une vie qui atteint son objectif de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mais ça, on ne le saura qu'au moment de mourir. Donc, qui sommes-nous pour nous juger et pour nous attribuer nous-mêmes une bonne note et pour considérer qu'on est dans, certes, le droit chemin, on est mu'min, mais considérer que ce que nous accomplissons, c'est déjà suffisant. On a besoin de réveil spirituel et arrêter de se dire qu'on a des mosquées, des madrasas, on a bien avancé. Oui, on a bien avancé. Mais est-ce qu'intérieurement, il y a autant de construction de notre cœur et de fondation que nous avons bâti? C'est la question qu'on se pose. Troisième question inculte, est-ce que le but de ce mois béni, c'est de faire tahajjud et le Coran, jeûner durant un mois parce que c'est Ramadan, ou il y a une autre réaction qu'Allah attend de nous? Ça résume un peu les trois premiers points. Et dernière question, Avant-dernière question, il y en avait cinq. Est-ce le mois, en lettres capitales, est-ce le mois de pratique intensive de la religion? Avec un partage, et ce partage, je vous assure, 90% de la Oumma l'a fait dans sa tête. Avec un partage, un mois pour Allah, 11 mois pour moi. Un mois pour le din, où je vais être au premier rang, assidu aux prières, ainsi de suite, et 11 mois, quand c'est le Asar, il ferme pas magasin, la garak, la client. Il ne peut pas faire telle chose, on trouvera 1000 excuses pour ne pas accomplir les bonnes actions, alors que dans le mois béni, quel que soit l'engagement, le rendez-vous professionnel, on peut mettre tout de côté pour venir. On a dit, c'est la rahmat d'Allah. Mais est-ce que, en dehors de ce mois, ça veut dire qu'on a un partage du temps, c'est-à-dire 1/12 de notre temps, ce qui voudrait dire, si on cumule pour une vie, 1/12 de notre vie, c'est pour Allah, et 11/12, c'est pour nous. Est-ce là un partage juste? Est-ce là un partage de quelqu'un qui fait preuve de gratitude envers Allah? Et dernière question, est-ce que le Ramadan, celle-là elle est simple, hein, est-ce que le Ramadan est une machine à laver spirituelle où on y dépose notre cumul de péchés annuels, on demande taouba, on répond présent, mais quand le Eid est terminé, on reprend une vie entre guillemets, mais mettez ça entre une vingtaine de guillemets, une vie normale après le Eid, ce qui veut dire avec nos mêmes erreurs, nos mêmes défauts, les mêmes péchés du quotidien. Et on le fait depuis 1995, 96, 2018, et on a l'intention de continuer ce rituel que je vis ma vie 11 mois, et Ramadan c'est intensité spirituelle, et après Eid, je retourne vers mes mêmes péchés, mais Allah est pardonné, Rahman Rahim. Et rendez-vous prochain Ramadan. Ikhwani fillah, akhawati fillah, nous ne sommes pas en train de philosopher là. Il y a une dame qui m'avait dit, Moussa, fais pas de philosophie, qui sommes-nous? Où allons-nous? Il n'y a pas besoin, je sais qui je suis, je sais où je vais. Ça, nous le savons tous en tant que mu'min. Nous avons cette réponse. Mais on philosophe, d'une certaine façon, sur une question essentielle qui est, quelle est notre conception du Ramadan? Et pour arriver à une question plus intense et plus importante, quelle est notre approche des bonnes actions? Qu'est-ce qu'on comprend à travers le terme « ibada » Et est-ce que j'ai réalisé que ce n'est pas juste un gestuel, mais c'est une relation qu'on crée avec Allah par l'intermédiaire d'actions qu'il a légiférées et qui nous permet de nous rapprocher de lui? C'est-à-dire que si on a identifié le sens de chaque bonne action, là on dépasse le mode rituel et les yeux du cœur s'ouvrent et on arrive à comprendre qu'il y a un objectif à travers chaque bonne action. Soyons persuadés. Et passons l'éponge sur ces 5 questions incultes et arrivons vers le natija, vers le résultat. Soyons persuadés, ikhwani akhawat fillah, l'islam n'est pas une simple religion de rites ou de pratiques périodiques. Il y a un objectif spirituel à travers chaque amal, à travers chaque action, et il y a une grande hikmah rabbaniya. Il y a une sagesse divine à travers chaque action pour la formation spirituelle du croyant. Il y a un maqsad am, un objectif général, qui est la soumission du cœur à Allah. Ça, c'est dans toutes les actes d'adoration. Et après, pour chaque action entre la prière, le dhikrullah, la lecture du Coran, et ainsi de suite, ce sont, on va dire, des objectifs spirituels différents. Et l'ensemble de ces actions permet aux croyants d'atteindre le kamal al-iman, la foi complète, et d'avancer, de grimper spirituellement jusqu'à atteindre la piété et atteindre le niveau de ihsan qui est le summum de la foi. Ça, à condition qu'on accomplisse les actions tant bil jawarih, mais également avec les conditions intérieures, les a'mal al qulub. On va donner un exemple et on se donne peut-être 5 minutes pour parler, même si ce n'est pas le but de l'intervention, pour parler de l'objectif de la salah, afin de différencier le gestuel de l'objectif. La salah, c'est un lien régulier avec Allah. Combien de fois par jour? Hein? Walad, combien de fois par jour? 5 fois par jour. Ramadan, un mois, 30 jours par an. Hajj, une fois au minimum dans la vie. Zakat, une fois par an. La salah, 5 fois par jour. Vous croyez que c'est un hasard, ça? Vous croyez que c'est un hasard, na'oudou billah, qu'il y avait 50 prières à la base et qu'Allah a décidé de le ramener à 5 par l'intermédiaire du prophète? Moussa alayhi salam qui avait fait la demande à Nabi alayhi salatu wa salam, tout cela avait été prédestiné par Allah Azza wa Jal et par ses saints prêtres, nous en accordons 50. L'objectif de la salat, c'est créer un lien régulier avec Allah 5 fois par jour, faire ses louanges 5 fois par jour en disant, et là je vais juste me focaliser sur Al-Fatiha parce que toute la salat c'est un thème en entier, en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le Clément, le Miséricordieux, et ça on le répète au minimum 17 fois par jour parce qu'il y a 17 rakats de namaz faraz. L'objectif de la salat, c'est se rappeler à chaque unité de prière, et comme on l'a dit, au moins 17 fois par jour, qu'un jour, on retournera vers Allah qui va nous juger pour notre vie d'action. C'est le verset « Maliki yaoumiddin » quand on s'adresse à Allah, « Oh Allah, toutes les louanges te reviennent, le très clément, le miséricordieux, maître du jour de la rétribution. » 17 fois par jour, on déclare à Allah notre soumission. « Iyaka » Iyaka, c'est adat ou hars, il n'y a pas théum plus puissant et plus fort en arabe pour orienter un discours vers une personne. Iyaka, ça veut dire c'est uniquement toi. Iyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Et c'est l'objectif. Et là, dans la salah, j'affirme ma soumission et je le dis au minimum 17 fois par jour, sans compter les sunnats, les nawafil qu'on peut accomplir. 17 fois par jour, je me rappelle moi-même que c'est uniquement Allah qui peut m'aider dans n'importe quelle circonstance de la vie, quel que soit le besoin. Je travaille mon yaqin, mon tawakkul à travers le verset wa iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi que nous cherchons refuge, secours. 17 fois par jour, au minimum, on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin jusqu'à la mort et de mourir dans le droit chemin, ce qui est le tafsir de « Ihdina al-sirat al-mustaqim » guide-nous vers le droit chemin. 17 fois par jour, on demande à Allah la protection contre l'égarement après la guider à travers les versets « Ghayril maghdoubi alayhim wa ladh-dhalin » et l'objectif final de la salat, c'est de nous renforcer. Là, on dépasse Al-Fatiha. Et là, on n'a même pas parlé du rukou', le symbolisme de la position, le symbolisme du sujoud, subhanallah. On va pas développer ça, ça va être trop long. Et le sens de tahiyatu lillahi wa salatu wa tayyibatu, le sens de Allahumma inni dhalamtu nafsi, et tous ces adhkar de la prière, on n'aborde même pas. Mais tout ça, l'ensemble de ce qu'on appelle la salat, ça nous renforce spirituellement après chaque rendez-vous avec Allah. Et ce qui nous permet d'affronter ce dunya, parce que le musulman, c'est pas celui qui habite dans une mosquée. C'est pas celui qui s'est retiré totalement de ce dunya, non, c'est celui qui vit avec les hommes, qui participe à la vie de la société, mais qui dans son cœur Allah Azza wa Jal, qui passe avant tout. Ainsi donc cette prière nous renforce spirituellement, donc après chaque rendez-vous avec Allah, pour nous permettre d'affronter ce dunya sans que ce dunya ne nous détourne du droit chemin. C'est le verset Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière éloigne du turpitude et du blâmable. Les Moufassins disent qu'après chaque salat, tu dois ressentir une telle force de iman que lorsque le péché se présente à toi, tu es capable de le refuser. Ça, c'est après la salat de Dhuhr. Et cette force, cette lumière, elle reste en toi jusqu'à un peu avant Asr. Il est normal que cette lumière finira par diminuer un peu avant la salat de Asr parce que nous sommes des êtres humains. Et qu'au moment de Asr, tu vas recharger ta batterie et avoir cette force entre l'Asr et le Maghrib. Et pareil, de l'enchaînement des prières, les savants disent, voilà la grande hikma dans le fait qu'Allah ait légiféré 5 rendez-vous journaliers avec lui. Mais Ikhwan et Fillah, pour revenir à ces différentes, on va dire, ces versets de soumission qu'on lit 17 fois par jour, si on est conscient de tout ça, uniquement d'Al-Fatiha qu'on a, on n'a pas fait de tafsir, on a juste cité le contenu des versets, si on est conscient de tout ça, de ce contenu qui est extrêmement riche, à chaque fois qu'on est Alhamdulillah et Rabbil Alamin, on se pose une question. Est-ce qu'on continue à prier comme un simple rituel ou alors on attend ce moment, ce rendez-vous et on l'accomplit avec cœur, dévotion, implication, sachant qu'est-ce qu'on est en train de dire à Allah dans cette Fatiha? C'est là que nous voyons le décalage qu'il y a entre une pratique vide et une pratique intelligente où il y a le ilm, où il y a la connaissance religieuse et il y a vraiment l'éveil spirituel. On peut se poser la question également. On avait dit qu'on ne va pas parler de sujoud, mais khair, inshallah, si on est conscient de ce contenu extrêmement riche, sans le moindre doute, la question de dévotion ne se pose plus. Vous savez, une des questions qui revient le plus dans les échanges personnels, les questions qui arrivent soit par message ou autre, dit que comment retrouver, ou alors comment développer, retrouver, c'est-à-dire qu'il y avait avant, il n'y en a plus, comment créer, comment développer la dévotion d'Allah Salah, la concentration? Comment faire pour que lorsque je démarre ma prière, mon esprit arrête de vagabonder, d'aller à droite et à gauche et de me ramener vers différentes choses de dunya, sauf en dehors d'Allah. Il me ramène vers Al-Alamin, mais il me fait oublier Rabbul Alamin. Et ça, c'est terrible ça. Parce qu'il n'y a pas position où on est le plus proche d'Allah que dans la prière et dans le sujoud. Par excellent, la prosternation. Et si même dans notre sujoud, on pense à autre qu'Allah, c'est que vraiment on a une maladie spirituelle qui est gravement installée, qui s'est généralisée et qu'on a besoin de se donner les moyens pour guérir cette maladie spirituelle. Donc si, au contraire, on est conscient du contenu puissant de la salah, je vous assure, la question de khushu', c'est le terme, de khushu', de dévotion, ne se pose plus. Et il y a une autre question qui est l'objectif le plus difficile de ce dunya. C'est le istiqama, la fermeté de le droit chemin. Il n'y a rien de plus complexe à développer après le ikhlas que le istiqama. Et pourtant le ikhlas est au début, le istiqama clôture l'action. Quand tu accomplis une bonne action, ton intention doit être sincère pour Allah et à la fin de l'action, fais l'intention de ne jamais arrêter cette action. Ce sont les objectifs essentiels. Vous voyez, ce sont les deux poteaux, les deux piliers des bonnes œuvres. On pêche pour le ikhlas. Ikhlas, c'est-à-dire le manquement de notre ikhlas. Là, on va ouvrir d'autres thèmes et on finira jamais à temps. L'objectif de l'ikhlas, ce n'est pas uniquement que tu fais pour Allah et pas par ostentation. Je pense que ça, d'une façon générale, on arrive à recadrer. L'ikhlas, c'est également oriente ton cœur vers Allah. Fais en sorte que l'action, c'est comme si, gardez ça comme une image, on le dépose sur un plateau et on est en train de l'offrir à Allah Azza wa Jal. Oriente l'action vers Allah et reste concentré que c'est pour Allah et uniquement Allah avec, et que ton cœur le pense, tes bras le pensent, tes membres le pensent, tes yeux le pensent, tes oreilles et ainsi de suite. Tout ton corps s'investit pour offrir, entre guillemets, présenter cette action devant Allah. Ça c'est le summum du ikhlas, c'est s'orienter, orienter son cœur vers Allah. Ainsi donc, le problème de dévotion est réglé. Si j'ai pris conscience de l'importance du contenu d'Al-Fatiha et de la Salah, et le problème de l'istiqama également, parce que un cœur convaincu, c'est un cœur qui ne va pas être mudhabdhab. Il ne sera pas mudhabdhabina bayna dhalik. Il ne sera pas un dans une période assidue, dans une autre période de la rafla, de l'insouciance. Non, un cœur de lequel il y a eu le ilm. La connaissance religieuse, ikhwani fillah, sans connaissance religieuse, on n'est rien. Un cœur de lequel il y a eu le yaqin, la conviction en Allah, il y a eu le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah. Un cœur de lequel il y a eu le ihtisabul ajr, l'espoir de rétribution et la conviction vers qui on oriente les bonnes œuvres et qu'est-ce qu'on attend. Et le regard d'Allah, être persuadé qu'Allah nous voit. C'est le degré du ihsan an ta'bud Allah ka annaka tarahu. C'est-à-dire que quand tu pries, tu te prosternes, rappelle-toi wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'ul 'alim. Que quand tu te prosternes, la synthèse de ce verset, que wa taqallubaka fi as-sajidin, quand tu te prosternes, tu t'assois, quand tu changes de position de la salat, n'oublie jamais qu'Allah te voit. Hina taqum, quand tu es debout, Allah te voit. Quand tu te prosternes, Allah te voit. Quand tu changes de position, Allah te voit parce que innahu as-sami'ul 'alim. C'est lui qui entend tout, qui voit tout. Ikhwani fillah, quand cette conviction là elle entre dans le cœur, bi'idhnillah, elle y reste et ça consolide ce qu'on appelle les amal al-qulub. La dévotion s'installe, la sincérité s'installe, l'amour d'Allah s'installe et trouve sa place, la crainte d'Allah trouve sa place. Et quand vous avez ces qualités, je ne les cite pas tous, votre prière sera d'un autre niveau. Votre hajj, Allahu Akbar, votre tawaf, hawla al-bayt, ce sera d'un niveau, d'une intensité qui dépasse le cumul de tout ce qu'on a pu faire comme Hajj Umrah jusqu'à maintenant. Quand l'amour d'Allah a pénétré le cœur et quand les yeux du cœur, c'est l'expression de l'éveil, quand il y a eu l'éveil spirituel, c'est-à-dire quand le cœur baigne enfin dans les a'mal al-quloub. Et on va vous citer, subhanallah, on était en train de préparer l'intervention ce matin, je reçois un message d'un grand cheikh, d'un grand alim. Il venait d'écrire, Allahu Akbar, la même chose, mais à 90 fois mieux. Et j'ai fait un copier-coller, donc les droits d'auteur, c'est pour lui. Il a écrit quelque chose qui est magnifique, qui devrait s'écrire, bima izhab, avec de l'or. Je vais vous le citer en résumé parce que, apparemment, on a 60 minutes. Je croyais qu'on avait 90 minutes. Je sais pas. Il dit que lam yakun, c'est en arabe et c'est sous forme de poème. Et c'est magnifique. Lam yakun Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu faqiran ka Abi Dharr ou Abi Hurayra. Abu Bakr as-Siddiq n'a jamais été un homme pauvre, démuni, comme Abu Dharr al-Ghifari ou Abu Hurayra radiallahu anhuma. Lakinahu kana afdal minhum. Mais Abu Bakr, malgré ça, il était meilleur que les deux sahaba cités. Il n'a pas été, on va dire en français, ça va être trop long, il n'a pas été persécuté comme Khabbab, ou Bilal, ou Sumayya, ou Yasir. Il n'a pas été persécuté au niveau de Khabbab, de Bilal, de Sumayya et de Yasir, radiallahu anhum, dont certains comme Sumayya et Yasir. Yasir, on parle de Al ou Yasir, de toute la famille. Le papa, la maman, le fils, toute la famille ont donné leur vie pour Allah. Ils ont été persécutés jusqu'à la mort. Abu Bakr n'a pas connu telle souffrance. Lakin kana afdala minhum. Malgré ça, Abu Bakr les a dépassés. Lam yusab badanuhu fil ghazawat ka Talha ou Abi Ubaida ou Khalid bin Walid. Il n'a pas été blessé dans les affrontements avec les ennemis qui voulaient en finir avec l'islam, comme ce fut le cas de Talha, d'Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah, Khalid ibn Walid. Lakin kana afdala minhum. Mais malgré ça, Abu Bakr les a quand même dépassés. Lam yuqtal shahidan fi sabilillah. Il n'est pas mort dans le chemin d'Allah comme Umar ibn al-Khattab, ou Hamza, ou Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib, ou Mus'ab ibn Umair, ou Sa'ad ibn Ma'ad, qui eux sont morts dans le chemin d'Allah. Lakinahu kana afdala minhum. Mais malgré ça, Abu Bakr les a tous dépassés. Et l'auteur dit, Masirul Ajib. Quel est donc ce secret exceptionnel, extraordinaire, qui fait qu'Abu Bakr a atteint ce degré de foi, tel degré qu'il est cité que la wuzina iman Abi Bakr bi iman ahli al-ard dun al-anbiya la rajjah. Si le iman d'Abu Bakr était posé dans un côté de la balance, et que de l'autre côté, on mettait le iman de tous les sahabas, de tous les croyants jusqu'à la fin du monde, à l'exception des anbiya, bien sûr, le iman d'Abu Bakr pèserait plus lourd. Qu'est-ce qui fait que cet homme, que ce mu'min a atteint l'excellence, la perfection de la foi, de l'iman? Il dit que ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبي. Abu Bakr n'avait pas dépassé ses autres compagnons par une quantité de bonnes actions. C'était pas par des amalul jawarih, pas par des actions externes, ce que nous accomplissons en ce moment, mais شيء وقر في قلبي, mais par une action qui était ancrée, par des actions qui étaient ancrées dans son cœur. C'est ce qu'on appelle les qualités spirituelles, les qualités de la foi qu'on essaie de développer, qu'on essaie de mettre en avant. Et l'auteur dit, réalisons que le iman, c'est la foi qui est dans le cœur. D'où le al-baqara alladhina yu'minuna bil ghaib. Ce sont les actions a'mal bil jawarih, comme wa yuqimuna as-salat. C'est l'entraide, le fait de tendre sa main aux autres, les relations avec les autres. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mais malheureusement, il fait un constat, nous nous sommes focalisés sur ce qu'on va lire, qawlul lisan, lecture du Coran, dhikrullah, et ainsi de suite, et les actions qu'on accomplit, salat et ainsi de suite, mais on a totalement oublié les actions internes, ce qui est dans le cœur. Et il va citer quelques exemples, et on va le faire, mais très rapidement, parce que c'est très instructif. Ça apporte énormément. Ça nous permet de faire une auto-analyse, une analyse de notre pratique de la religion, sans qu'on ait besoin de quelqu'un qui nous juge, on n'a pas besoin de ça. De quelqu'un qui va nous évaluer, qui va dire tu es bon, tu es pas bon. Allah seul le sait. Et personne ne sait ce qu'il y a dans les cœurs. Nous devons être capables de voir notre pratique et d'analyser j'en suis à quel niveau. Ainsi, il dit que fasuratu salah, l'aspect externe de la prière, c'est qiyam, ruku', sujoud et tout ce qu'on connaît. Mais le lubb, c'est-à-dire le nectar de la prière, c'est la khushu', la dévotion. Et ça, on a expliqué. Il dit que le hajj, l'action externe de le hajj, c'est quoi? Le sa'i, le tawaf, mina arafa al-muzdalifa. Mais le nectar du hajj, l'objectif spirituel à atteindre, c'est ta'zim sha'a'irillah, élever le nom d'Allah, ressentir la grandeur d'Allah en se soumettant à lui dans tous les ordres qu'il nous demande d'accomplir en bougeant d'un endroit à l'autre et ressentir qu'on est là pour Allah et qu'on bouge pour Allah, on vit pour Allah, on meurt pour Allah. Le dua, l'aspect externe du doua, c'est lever les mains, c'est demander des choses, c'est exprimer ses attentes et ainsi de suite. Mais le lubb, le nectar du doua, la qualité spirituelle qu'on doit atteindre dans le amal ul quloub du doua, c'est al-iftiqaru ila Allah. Et ça, c'est un principe qui est exceptionnel, qu'on ait l'occasion un petit peu de développer dans l'asma wa sifat. C'est montrer le besoin qu'on a de notre Seigneur, montrer à Allah, exprimer sa pauvreté devant Allah, montrer à Allah que je suis rien, j'ai les mains vides, je ne suis capable de rien, mais c'est uniquement wayyaka nasta'in, auprès de toi que je peux demander, parce que toi Allah, tu es le ghani, wallahu al-ghani wa antumul fuqara. C'est ce cœur qui se soumet à Allah avec conviction que nous ne sommes que des makhlouqs et Allah est le khaliq et que nous avons besoin de lui. Pareil, le but du dhikr, combien de personnes font tourner le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, akbar. Les récompenses y sont, mais est-ce que le cœur y est? L'aspect externe du dhikrullah, c'est le fait de les dire, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, yadur al-sharif, salat al-nabi. Mais le lubb, le nectar et l'objectif spirituel, le amal al-qulub de le dhikrullah, c'est que l'amour d'Allah et la crainte d'Allah s'installent réellement et de façon durable dans le cœur. Qu'à chaque alhamdulillah, tu deviens une personne qui fait preuve de gratitude, de reconnaissance envers Allah. Et dites-moi qu'on est reconnaissant envers Allah, est-ce qu'on continue à le désobéir? Normalement, le alhamdulillah, c'est un tazkiya suffisant pour abandonner les péchés. Quand je dis astaghfirullah, c'est pas uniquement de le dire, c'est de se rappeler nos erreurs et conviction qu'Allah est pardonneur et de faire l'intention de ne plus revenir avec les péchés. Quand on dit Allahu Akbar, c'est enlever le dunya de notre cœur et réaliser qu'Allah est le plus grand, que rien. Autant on est conscient qu'Allah est au-dessus de tout, on doit également réaliser que rien ne prime sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Jamais faire passer un besoin personnel ou l'envie de faire un péché sur l'ordre d'Allah. Ça, c'est l'objectif, ça, c'est l'amal al-quloub qu'on doit essayer de travailler avec les amal al-jawarih. Et ainsi, il conclut, l'auteur conclut cette magnifique citation que j'ai résumée, autrement ça aurait été un peu plus long, mais beaucoup plus beau encore. Il dit que inna sha'na kulla sha'ni, ô croyants, retenez que l'essentiel de l'essentiel, c'est anna a'mal al-qulub qabla a'mal al-jawarih, que les actions du cœur doivent être présentes, doivent constituer le socle et la base des actions externes. Autrement, les actions externes, comme on dit dans l'introduction, ne trouvent pas l'ampleur et ne décollent pas et ne nous apportent pas spirituellement ce qu'elles sont censées nous apporter et ce qu'elles avaient apporté aux sahaba. Il dit que Varadan, il conclut par 4 versets. N'oubliez pas, il cite 4 versets où on rappelle que le jour de Qiyama, les premières choses qui vont émerger, c'est le contenu du cœur. Varadan, innama, tubla sarair wa ghadan innama yuhassalu ma fi as-sudur, ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui va, les secrets internes, c'est ce qui va émerger le jour des comptes. Wa ghadan la yanju, et le verset illa man atallaha bi qalbin salim, celui qui se présente devant Allah avec un cœur pur, c'est lui qui aura là la réussite. Et le cœur pur, bien sûr, est accompagné des bonnes actions, ça c'est très clair. Mais des fois, dans l'autre sens, ça ne va pas toujours. On peut avoir des bonnes actions et ne pas avoir un cœur pur et sincère. Et là, c'est un manquement. On se présente avec des a'mal ou jawarih, mais pas des actions du cœur. C'est un naqs, c'est un manquement de la foi. Wa ghadan la yadkhulu al-jannata illa, il y a le verset man khashiya ar-rahman bil-ghaibi wa jaa biqalbin munib, celui qui a développé dans son cœur la crainte du très clément, la crainte d'Allah. Ce sont ces personnes qui réussissent les étapes de l'au-delà parce que intérieurement, ils avaient réuni tout ce qu'on appelle les a'mal al-qulub. Ainsi, ikhwan fillah, pour le jeûne, l'objectif c'est la piété. Ça nous ramène vers le verset classique, le verset basique du jeûne. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba 'ala alladhina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit comme il était prescrit à ceux d'avant vous. Il y a le suhur, la journée d'abstinence, il y a la rupture du jeûne, la salat al-tarawih, les actions qui viennent avec. Mais l'objectif c'est la'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et dites-moi la piété. Hein, Mustafa? La piété c'est amalul jawarih ou amalul khulub? La piété c'est externe ou c'est interne? C'est dans le cœur. La piété elle est dedans. Mais elle ne reste pas que dedans, hein. On n'est pas de ce discours, on dit tout est dans le cœur. Non, non, on a bien compris qu'on ne parle pas de ça. La piété, elle est dedans. Et c'est de cette piété, c'est de ce cœur rempli de taqwa Allah que va se manifester les a'mal al-jawarih qui fait que nos actions auront une ampleur exceptionnelle. Que quand je dis Allahu Akbar, je commande ma salat, c'est comme si que vraiment je ne suis plus présent. Le subhanallah ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tara, adorer Allah comme si que tu le voyais, c'est comme si que quand on prie, on est devant le trône d'Allah. Et que Allah nous observe et qu'on voit Allah et qu'on est en train de faire ostentation près d'Allah. La seule ostentation qui est autorisée, c'est celle qu'on fait pour Allah. On montre à Allah notre dévotion, notre amour pour lui, notre application dans les sujouds, dans les recours, dans les lectures pour Allah. C'est-à-dire, tahsin al-sawm, comme on a dit tout à l'heure, mais tahsin al-salah, tahsin de toutes les bonnes actions pour Allah. Ça, c'est le degré de ihsan qu'Allah nous permette de l'atteindre. Ainsi, l'objectif de, pour répondre à ce grand point, quel est l'objectif du jeûne? C'est développer ses actions qu'Allah a légiférées, mais également développer les actions intérieures afin de devenir pieux. Parce qu'il n'y aura jamais de piété uniquement avec les bonnes œuvres. La piété, c'est à partir du moment où le cœur est également convaincu et que la foi trouve sa place dans le cœur. Et c'est là l'objectif, pas uniquement du jeûne, de toutes les bonnes actions. On revient vers sourate al-Baqara. Ya ayyuha an-nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. Et pour le jeûne, la'allakum tattaqun, ainsi atteindrez-vous la piété. Les mêmes objectifs pour le jeûne et pour l'ensemble du ibadah d'une façon générale. Ça veut dire que chaque bonne action, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un maqsad am, un objectif essentiel, soumission du cœur à Allah. La question qu'on se pose, c'est la question, deuxième thème, mais en même temps thème de un peu de conclusion avant d'apporter la solution. Comment développer cette piété? On a dit qu'on a besoin de développer la piété, mais comment faire? Et comment, surtout, on a parlé beaucoup des a'mal al-qulub. En fait, on vous a adressé on vous a fait un dessin avec de magnifiques couleurs. Mais vous dites que où trouver ces couleurs? Où trouver la palette avec toutes ces belles couleurs de ihsan, de taqwa, de muraqabatullah, de husnudhanni billah, de tawakkul, de isti'ana, et ainsi de suite, de tout ce qu'on appelle ces actions internes, les a'mal al-qulub. Où est-ce que je vais les trouver? Il est bien beau de dire qu'on a besoin, qu'il nous manque ça, et il faudrait développer ça. Mais où ça y trouve? Est-ce qu'il y a un doigt à lire pour que tac, tout va naître d'un coup? Est-ce qu'il y aura un tavis à mettre dans de l'eau et à boire? La hawla adhim shaitan rajim. Est-ce qu'il y aura un tavis à porter? A'udhu billahi minash shaitan rajim. La wallah, il n'y a pas tout ça. Il y a un effort à faire. Mais quel effort? C'est la question qu'on se pose. Et comment orienter l'effort? Parce que là, mais il est chaud, moi, là. Tout nous dit ça, mais il est chaud bouillant. Spirituellement, je veux dire. Dans Ramadan, on est prêt à faire n'importe quelle bonne action. S'il faut rester, si le tarawih durait 2 heures au lieu d'une heure 15, je suis prêt. C'est-à-dire, on a cette niaque spirituelle qui est unique. Mais donnons une orientation. Mais comment profiter de cette énergie spirituelle? Ce n'est pas en faisant 18 rakats de tahajjud au lieu de 6. Ce n'est pas en gonflant les bonnes actions, en augmentant leur quota. Non, parce qu'Abou Bakr n'avait pas gonflé le quota des bonnes actions, mais il avait travaillé la qualité. Alors la question, Mustapha, c'est comment travailler la qualité de nos actions? La réponse, elle est très simple, on va vous la donner, et elle est à portée de main, mais on va voir la méthodologie pour profiter de cette source extraordinaire qu'on a mis de côté. ou alors qu'on a occulté par d'autres priorités, et c'est le grand manquement de cette Ummah. On va essayer de voir ça dans la fin de ce thème, de cette conclusion. Alors, on revient vers un truc un peu plus classique, un développement plus classique concernant le fait de développer la piété. Comment développer la piété? Alors, les actions qu'on accomplit, on doit être conscient durant le mois de Ramadan ou durant n'importe quelle période de l'année. Ces actions-là, on a besoin de leur donner de l'ampleur, comme on l'a cité, un socle, des ailes et une parure et une beauté. Parce que le simple cumul des bonnes œuvres n'est pas suffisant pour atteindre la piété. Et on a fait un petit programme pour des jeunes, pas des jeunes, il y a des... Ils sont tous trentenaires mariés avec enfants. Mais programme privé, avec des questions-réponses, mais c'était Allahu Akbar. Et on a rappelé ce principe que le cumul des bonnes actions n'est pas suffisant. Il y aura des gens, le jour de Qiyama, qui vont se présenter au tribunal d'Allah avec Hajj, Salah, Dhikrullah, toutes les bonnes actions que nous-mêmes nous accomplissons de façon intensive. Mais ces personnes-là ne pourront accéder au Jannah, ne pourront pas accéder au paradis. Pourquoi? Parce qu'il y aura une personne qui va venir, de la terre de Mahshar, un pécheur peut-être, ou un bon croyant, un mu'min, Allah seul le sait. Il y a des gens qui vont venir et qui vont dire, « Ya Allah, de ce dunya, cette personne m'avait insulté. » Il m'a humilié en public. Il a causé la cassure dans mon couple. C'est lui qui a divisé ma famille. Et Allah Azza wa Jal, dans sa justice qui est divine, Malik Yawmiddin, va régler les comptes, ce qu'on appelle le hadith al-muflis, très connu, en accordant au mavloum, à l'opprimé, en lui distribuant nos bonnes actions que nous sommes en train de faire là. Et si les bonnes actions ne sont pas suffisantes, Allah prendra les péchés de ce mazloum, de cet opprimé, et mettra de notre livret de compte. As-salallaha, as-salamata wal-afiyah. Allah mahfadna. Qu'Allah nous protège de cet objectif qui allait être atteint 98%. Mais quand il restait les deux derniers pourcents, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Et qu'on a développé une partie de la foi, mais une partie, on l'a occultée. On a oublié qu'être croyant, c'est également ne pas faire du mal aux gens, ne pas faire le riba, ne pas causer de problème. C'est ne pas aller voir le sorcier pour faire djihadou, sorcellerie, sur ton voisin qui est commerçant pour que son commerce ferme. On a oublié que c'était pas que garder la grande barbe qui arrive au nombril et aller au hajj tous les ans et faire 12 khatam Quran dans le mois de Ramadan, mais c'est également garder de bonnes relations avec l'ensemble des membres de ta famille, tes parents, mais l'ensemble de la umma, d'avoir un comportement exemplaire, ne pas faire le riba, ainsi de suite. Ça c'est sans rapport avec les actions du cœur, hein. Mais ça c'est pour qu'on réalise que des fois, les péchés nous empêchent d'atteindre l'objectif. Mais là on ne parle même pas de péché, là on parle de bonnes actions qui sont dans le cœur, que s'ils n'y sont pas, ces bonnes œuvres ne nous permettent pas d'atteindre l'objectif. Alors qu'est-ce que nous devons en plus développer? Mais ça c'est des points qu'on ne développe pas, on cite juste, parce que chaque point ça nécessite un développement. Premièrement, pour les autres réactions du cœur, de la foi que nous devons avoir, en plus de cumuler les bonnes actions, c'est premièrement l'éloignement total des péchés. On ne peut pas se rapprocher d'Allah en accomplissant des bonnes actions et en accomplissant des péchés. C'est-à-dire qu'on fait deux pas en avant et deux pas en arrière, on n'avance pas. Et la taqwa, la piété ne peut pas être atteinte si on perdure dans les péchés. La taqwa, une des meilleures définitions, c'est « antaj'ala baynaka wa bayna Allahi hijab ». Mets un voile entre toi et la désobéissance de ton Seigneur. C'est-à-dire, ne te mets jamais dans une situation où Allah sera mécontent de toi. Où Allah sera déçu par ton comportement, par tes paroles, par ta décision. C'est-à-dire que la taqwa implique les bonnes œuvres, mais également l'éloignement total des péchés. Deuxième point en rapport avec l'éloignement des péchés, le repentir sincère pour nos fautes. Ça, c'est indispensable pour que nos actions aient de l'ampleur. Et ce thème-là du Tawbah, on l'avait, bidnillah, un peu abordé Ramadan l'année dernière de cette même mosquée. Deuxième condition qu'on doit réunir pour donner de l'ampleur à nos bonnes actions, sachant que ces bonnes actions-là ne sont pas suffisantes pour nous faire atteindre la piété, c'est donner de la vie à ces bonnes actions, leur donner un sens, c'est-à-dire le maximum de profondeur dans l'orientation de nos salats, de nos dhikrullah, de notre zakat, c'est-à-dire réaliser pour qui je me prosterne, pour qui je fais le tawaf, pour qui je donne 2,5% de mes biens tous les ans, pour qui je ne mange pas durant le mois béni. Et quand on aura réalisé pour qui on se soumet, qui est Allah Ça répond à la question, qui est notre Seigneur? Connaître Allah, quand on aura résolu, on aura répondu, on se sera répondu même nous-mêmes, la question pour qui on le fait, ça va résoudre la question pourquoi on le fait. On est à une époque où les gens aiment bien philosopher sur la religion. Pourquoi telle action? N'est-ce pas là un mode de vie archaïque? N'est-ce pas là des actions qui ne trouvent plus leur place dans l'époque, dans cette société? Êtes-vous persuadé qu'une femme doit continuer à s'habiller de cette façon? Êtes-vous persuadé que la pudeur qui était celle des épouses des Sahaba à Madina et à Makkah, cette pudeur-là, a-t-elle encore sa place dans une société aussi développée que la nôtre? On aime philosopher sur le pourquoi. Et on n'a pas besoin de répondre pourquoi. Allah l'a prescrit, il y a une hikma dedans. Vous voulez, on apporte une réponse générale pour tous ces pourquoi? Comprends pour qui tu le fais. Et tu réaliseras que subhanallah, je le fais pour Allah. Que je l'intègre à 100%, que je comprenne les tenants et les aboutissants ou non, je me soumets à Allah. Et Allah me donnera ce qu'il a prévu de me donner le jour de Qiyam. C'est ce qu'on appelle le musulman. Celui qui a fait istislam lillah. Il a soumis toute sa vie à Allah. Quand Allah Azza wa Jal parle de Yusuf alayhi salam, de surat Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlasin. L'ikhlas, comme on l'a dit, c'est la sincérité dans une action, mais pour Yusuf alayhi salam, c'est akhlasa hayatahu kullahu lillah. Ibn Kathir le dit, et As-Sa'di rahimahullah le reprend. Il a voué sa vie à Allah. C'est le sens de l'inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillahi rabbil alamin, ma vie, ma mort, tout est pour Allah. C'est-à-dire que, quand tu as réalisé qui est ton Seigneur, quand tu essaies de comprendre, et ça implique quoi? L'étude des noms d'Allah. Ikhwan fillah, c'est un thème qu'on ne va pas développer. Tant qu'on ne fait pas un effort pour développer le tawhid, notre aqidah, connaître les noms et les attributs d'Allah, on n'avancera pas dans notre religion. Même si on fait plein de bonnes choses, je reprends, on aura de bonnes actions, mais on n'arrivera pas à donner un sens à ces bonnes œuvres. Tant qu'on ne réalise pas qu'on invoque As-Sami', Al-Basir, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Azim, Al-Latif, on ne réalisera pas le sens des bonnes œuvres, mais même le sens de notre vie. Et je le rappelais encore hier à un jeune qui connaît des gros problèmes sentimentaux avec une demoiselle qui n'accroche pas, qui n'accepte pas la demande, qui le fait attendre et languir depuis des mois et des mois et des mois, j'ai dit, oh, cher frère, je ne vais pas citer son nom, n'oublie pas que tout ce qui t'arrive, cette jeune fille que tu attends depuis un an et demi et qu'elle te fait, comme il dit en créole, tourner en bourrique, elle te fait languir et elle ne te donne pas la réponse, elle n'accepte pas la demande en mariage, elle dit plus tard, pas prêt encore, si ça ne se concrétise pas, sache que c'est le taqdir qui vient de Al-Latif. Al-Latif, c'est le bienveillant. Celui qui prédit, à son serviteur ce qui lui sera profitable fi dunya wal akhira. Et lorsque cela ne lui sera pas profitable, il ne lui accorde pas, même s'il lève ses mains devant la Kaaba. Même s'il va au Hajj tous les ans, il le demande. Allah ne te le donne pas parce qu'il n'y a pas un khair pour toi. Et heureusement qu'Allah ne nous donne pas tout ce que nous demandons. Et que Allah voit ce qui est bien pour nous. Et ça découle de Al-Latif. Étudier et connaître les noms d'Allah, ça donne un sens à chaque bonne action. Ça te permet de comprendre ta vie. Tu comprends les épreuves que tu vis. Tu ne te poses plus la question pourquoi moi? Comment est-ce possible? Suis-je malchanceux? Pourquoi il m'arrive telle chose? Tu réalises que tout ça vient de Al-Hakim, le sage. Al-Alim, celui qui connaît tout. Al-Latif, le bienveillant. Al-Khabir, celui qui a connaissance de tout. Al-Sami' al-Basir, celui qui a alim au midat al-sudur. Donc, retenons ce deuxième point. Connaître Allah, les noms, les attributs d'Allah, ça donne une orientation, mais précise, à nos bonnes œuvres. Tant qu'il n'y a pas ça, ça restera un rituel. Même si c'est cru ce que je dis, ça restera un rituel. Troisième qualité qu'on doit développer pour que nos bonnes actions nous permettent d'atteindre la piété, donner de l'ampleur et de la profondeur à ces bonnes actions en les associant au ilm. On a dit tout à l'heure, sans le ilm, on n'est rien. En les associant à la connaissance religieuse. Ainsi, une sijda, une prosternation qu'on va faire en disant Subhana Rabbi al-A'la et que tu comprends le sens. Tu réalises le symbolisme de la position du corps et le décalage avec le nom d'Allah que tu es en train de citer, le paradoxe entre le fait d'être au plus bas du sol et de dire qu'Allah il est Al A'la, le plus haut. C'est pas qu'on réalise qu'on n'est rien. Et que Allah il est le plus haut. C'est qu'on a montré vraiment le décalage entre le makhlouk et le khaliq. Et qu'on réalise que c'est par les ordres d'Allah qu'on atteint la soumission. C'est par les ordres d'Allah qu'on arrive à développer la piété. Allah te dit, mets ton front sur le sol et tu es le plus proche de moi. Hadith prophétique. Que l'être humain le plus proche d'Allah, qu'il est en soujoud. Mais voyez ce soujoud avec les quelques notions qu'on vient d'expliquer, les quelques hadiths qu'on vient d'expliquer. Est-ce que ce sijda là, est-ce que ce sera un sijda qu'on fait de façon insouciante ou il y aura une autre ampleur? Il y aura une autre ampleur, ça va être un sijda d'un autre niveau. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas le ilm, apprenons la religion. Qui nous empêche d'apprendre le dîn? Pourquoi est-ce qu'on s'est privé de la connaissance? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'apprendre ma religion quand j'ai terminé la classe 10 ou la classe 11 à la madrasa? Pourquoi je me prive de ça? Le ilm, ça te permet de décoller spirituellement. Le sijda que tu le fais avec ça, et on n'a pas parlé de Subhan Rabbi al-Azim, on n'a pas parlé de la tahiyyat et des autres choses, et de l'ensemble de la connaissance qui nous permet de donner un sens à nos paroles, nos adhkar et à nos rituels. Ça te permet d'atteindre la piété. Ça fait combien là? On suit plus la Suleyman. C'est trop long? Ça fait 3. Il y a un fil conducteur, il faut bien être bien attentif. Si on est déconcentré une seconde, on perd tout. Quatrièmement, et c'est le dernier point, la constance dans l'orientation du cœur vers Allah. La constance, l'istiqama, dans l'ikhlas, l'istiqama dans l'orientation de ses actions vers Allah Azza wa Jal et dans l'acte de soumission. Et ça, on a dit que c'est le plus difficile, ça, de rester dans le droit chemin. Alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ça, c'est le plus difficile. Pour atteindre cette perfection dans les bonnes œuvres, les qualités qu'on a citées et dans notre pratique de la religion, pour que nos cœurs soient imprégnés de dévotion, pour goûter à ce qu'on appelle le halawatul iman, la douceur de la foi, pour rester ferme, pour continuer à s'émerveiller de la religion. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'on éprouve de la lassitude dans les prières. Et je ne parle pas de Salatou Tarawih, où il est humain qu'au bout de 14 rakat, on somnole. Ça peut arriver, on a une dure journée. Allah est clément, Allah accepte malgré nos manquements. Mais le plus grave, c'est quand tu vas à la prière, le cœur vide. C'est quand tu te prosternes, le cœur vide. Quand tu fais le tawaf, le cœur vide. Quand tu lis le Coran, comme si tu lis un journal, mais sauf que c'est en arabe. Sans ressentir la moindre des choses. Et Ikhwani fillah, ça, c'est que la maladie spirituelle s'est généralisée. Le rafla, l'insouciance, a trouvé sa place dans ton cœur. Et ton cœur est vide de ilm. Ton cœur est vide de ikhlas, de muraqabatullah, de toutes les a'mal al-quloub qu'on a citées. Ton cœur est vide de lumière. Maintenant, comment se rattraper et essayer d'avoir un peu de cette lumière qui va donner une ampleur à nos actions, comme les sahaba, eux, l'avaient développé. Quelle est la source de guider qui nous est accessible? Est-ce que pour cela, on va dire, Suleyman, tu vas atteindre ce haut degré de foi. C'est quoi le travail? L'expert comptable? Bon, arrête avec ça. Ou en phase de devenir, Allah te donne la réussite dans tout ce que tu fais. Dunya wa l'akhira. Arrête. Range tes livres, range ta... Je ne sais pas si tu es encore calculatrice. Hein. Ferme tes fichiers, d'accord? Allez faire un alim. Allez, vas-y. Va à Mecca, va à Madina, va en Angleterre, va en Afrique du Sud, va à Deoban, va à Zakaria Park ou autre chose. Va faire un alim 7 ans, 8 ans. Et là, tu deviens... Vous pensez que pour devenir un bon croyant, il faut 7 ans, 8 ans? On va dire que ça, c'est le summum, tu as le ilm. Mais je veux dire que ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Parce que le Coran même, Allah Rabbul Izzah rappelle, le début du verset ne me revient pas. Il y a fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Mais le verset qui stipule qu'une partie des gens se doivent d'aller à la connaissance, d'aller rechercher la connaissance religieuse, et quand ils retournent, ils peuvent donner. Le verset ne me revient pas. Mais il y a un verset qui va de ce sens. On dit bien une partie de la population. C'est-à-dire qu'apprendre le ilm, ce ne sera pas pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire que nous serons tout le reste, le commun des mortels, si vous me passez l'expression, sera privé de cette lumière? Non! La lumière, elle est là dans ses étagères, c'est le Coran. Elle est là dans ses étagères, c'est le Coran. C'est Kalamullah. Cette source à notre disposition, c'est la parole d'Allah pour qu'on continue à s'émerveiller. Donc il y a des gens qui disent qu'on éprouve une certaine lassitude, on ne ressent plus rien qu'on pratique. Et du coup, il y a une routine qui s'installe. Qu'est-ce qui fait qu'on a arrêté de s'émerveiller de la perfection de la religion, de la beauté de la révélation divine? Qu'est-ce qui fait qu'on ne ressent plus la grandeur dans nos a'mal, de nos pratiques, que chaque sujoud nous apporte quelque chose d'énorme. Qu'est-ce qui fait qu'on ne ressent plus la pureté de notre aqidah, la grandeur divine? Qu'est-ce qu'on a besoin pour retrouver cette motivation? Il ne faut pas attendre uniquement quand tu vas à Makkah. Quand on arrive devant la Kaaba, il y a quelque chose qui se passe, oui ou non? Parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on a apporté. Mais tu ne peux pas aller à Makkah tous les semaines ou tous les deux jours et même analyser. Vous arrivez à Makkah, vous voyez la Kaaba, Allah Akbar, fait, doit vous pleurer et c'est puissant, c'est fort. Vous êtes près de Multazam et ainsi de suite. C'est powerful. Allah nous amène tous, Inch'Allah. Mais le cinquième jour quand tu es à Makkah, je dis bien le cinquième jour, et que tu rentres à Haram Sharif pour la 70e fois et que tu vois la Kaaba, est-ce que tu pleures encore? C'est pas la même Kaaba, c'est pas le même cœur. Au contraire, tu as été pardonné de tes péchés. Ça veut dire que on a parfois besoin de quelque chose de fort et de puissant, d'un électrochoc spirituel. Mais ça ne se reproduit pas sans arrêt. La Kaaba, vous le voyez une fois, ça fait un effet, ou deux ou trois. Le besoin que nous avons, et qui trouve sa réponse parfaitement, et qui répond à tout ce qu'on a mis en avant comme problème, c'est l'étude des versets du Coran. La parole d'Allah. Notre Seigneur nous dit dans le Coran, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Accrochez-vous à la corde d'Allah. Voyez le terme habl, ça a été traduit par la corde, ça a été traduit par le câble, mais aucun terme, aucune traduction n'est fidèle au terme. بِحَبْلِ اللَّهِ, c'est-à-dire, vous devez vous y cramponner. Pour ça, me dit dans le hadith, تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ تَمَسُّكْ et intisam, ce sont des synonymes. C'est en rapport avec quelque chose que vous le faites sérieusement, sans lâcher prise. Je vous laisse ces deux choses, vous y accrochez. Vous ne serez jamais garé. Kalamullah, la parole d'Allah et ma sunna. Le Prophète nous a annoncé qu'à la venue de l'Antéchrist, il n'y a pas plus grand fitna que celle de Dajjal. Qu'est-ce qui sauve un croyant à l'époque de Dajjal? C'est la sourate Al-Kahf. Par son contenu, parce qu'il y a une information, il y a des akhbar qui dépassent les miracles de l'Antéchrist et qui renforcent la conviction du Coran. C'est-à-dire le Coran te permet de rester sur le droit chemin. Le Coran te permet de réactualiser ton iman jour après jour. Je vais poser la question, parmi les jeunes, il y avait un expert comptable, il y avait un commissaire au compte, il y avait plein de gens. Je dis que si pendant un an, ou deux ans, ou dix ans, tu arrêtes d'apprendre ton métier, qu'est-ce qui se passe ? Dans 10 ans, il y a un nouveau programme, il y a une nouvelle façon de travailler et tu es complètement largué. On est tous d'accord, quel que soit le corps de métier. Un médecin qui ne fait pas de stage, de formation, une nouvelle antibiotique, nouvelle molécule qui sort, nouveau vaccin, il ne sait pas. Il continue à prescrire les traitements de 1975. Ça marche, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'être humain a besoin de réactualiser ses connaissances. Et le mu'min a besoin, c'est un besoin vital d'avoir une relation profonde avec le Coran tous les jours. Et qu'est-ce qu'on appelle une relation profonde? Afala, afala, yatadabbaruna al-Qur'ana, am ala qulubin aqfaluha. Allah Azza wa Jalla reproche aux munafiqins qu'ils ne méditent pas sur le sens du Coran. En commentaire, Ibn Kathir dit, mais il n'y a pas beaucoup de temps pour citer Ibn Kathir, il dit que même les hypocrites, s'ils s'étaient penchés sur le contenu du Coran, plutôt que de se limiter au fait de l'entendre quand les sahabas le lisaient, leur cœur serait passé du nifaq vers le iman. Que dire d'un mu'min comme nous, bi'idhnillahi wa karami, d'un croyant, si nos cœurs s'orientent vers le Coran, je vous assure, c'est là qu'on atteint la piété, c'est là qu'on trouve tous les a'mal al-qulub qu'on a cités, on va les avoir les uns après les autres, on va accomplir les actions avec yaqin, avec conviction, avec istiqama, avec fermeté, avec khushu', avec dévotion, avec hudur al-qalbi, avec présence de cœur, avec engagement, avec hubbullah, avec amour pour Allah, avec khashyatullah, avec crainte d'Allah, toutes ces qualités qui nous manquent, avec muraqabatullah, réaliser que Allah nous voit, nous observe, avec ihtisabul ajr, cet attente de rétribution, cette conviction qu'il y a un au-delà avec sa récompense pour ce que je suis en train de faire et pour les choses pour lesquelles j'abandonne, les péchés que j'abandonne pour Allah, avec une étude régulière, journalière du Coran, je peux atteindre tous ces objectifs. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'aller étudier 7 ans, 8 ans. Et pour cela, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir à votre portée un alim qui va vous expliquer. On a à notre disposition, bi'idhnillah, on va dire que c'est le niveau basique, mais c'est déjà un premier pas. On a à notre disposition des livres de tafsir. Vous dites que oui, mais tout ça, il y a déjà nous. Vous dites que aller acheter le livre tafsir chez le commerçant du coin, qui coûte 75 euros, et je deviens muttaqi. Non. Tu l'achètes, mais tu le lis. Et tu le lis avec dévotion. Fais de rakat. Fais-vous où de rakat, demande à Allah, illumine mon cœur, parce que je veux apprendre ta parole. Je vous assure, il n'y a pas besoin d'aller vers des tafsirs complexes de grands ulama, de grands mufassirines. Analysez juste dhalikal kitabu la rayba fi. Hudal et lil muttaqin. C'est suffisant, trace ton chemin maintenant. Avec ça, tu comprends tout de la vie. La rayba fi, le alif lam mim, même c'est mu'ajiza, on n'a pas le temps de développer c'est quoi alif lam mim. Que veut dire alif lam mim? Dhalikal kitabu la rayba fi, de lequel il n'y a aucun doute. Réalise que ça, c'est le guide qu'Allah a envoyé sur ce dunya. Tu suis le Coran, tu obtiens le contentement d'Allah, tu avances sur le salat al-mustaqim, tu es ressuscité sur le salat al-mustaqim. Et huda lil muttaqin, huda, un guide, c'est-à-dire le guide pour réussir ta vie de ce dunya, mais également dans ta vie spirituelle, ton cheminement vers Allah, pour ta vie de couple, pour ta vie de père de famille, de mère de famille, pour toutes les relations avec Allah, mais les relations également avec les hommes, pour ton akhlaq et ainsi de suite. Huda, il y a là la guidée, il y a là le mode de vie. Mais le problème, c'est que nous vivons à une époque étrange où nous nous sommes contentés de lire correctement, d'enseigner, je le dis en connaissance de cause en tant qu'enseignant, d'enseigner le tajwid aux enfants. Et on en est fier. Quand ils lisent Tarawih, on est content. C'est mon élève. Quand ils gagnent le concours Quran, j'en suis fier parce que je l'ai formé. Mais le tadabbur, l'étude du sens, c'est comme si qu'on a totalement occulté ça. Tout comme l'apprentissage de la langue arabe. Ça, c'est deux manquements. Le fait qu'on n'ait pas de relation directe avec les textes, parce qu'on n'a pas de langue commune avec le Coran, c'est grave. Et aucune traduction ne permet d'avoir la même puissance, ni la même nour, ni la même lumière. Ça, c'est un autre point qu'on ne développe pas. Mais le fait que nous, musulmans, nous nous contentons de lire le Coran sans jamais, et je ne parle pas de lire la traduction. Il y a des fois, tu lis la traduction, c'est tellement compliqué, tu ne comprends rien. Parce que c'est un niveau linguistique très élevé. Étudier le sens, c'est-à-dire le tafsir, il y a des livres. Ibn Kathir est traduit en français. As-Sa'di, Tafsir al-Karim al-Rahman, a été traduit en français. Chaque jour, un verset, je vous assure, ça apporte quelque chose d'énorme. Et quand on dit Hudal lil-Muttaqin, une guidée. Ibn Kathir dit une guidée. Ay nourun lil-Mu'min, c'est une lumière pour toi. Tu t'accroches au Coran, tu as cette lumière qui nous manque. As-Sha'bi. Rahimahullah dit Hudal al-Muttaqin, une guidée pour ne jamais sombrer dans la perdition. Quand on demande Ghayr al-Maghdoubi alayhim wa ad-dallin, on demande protection contre la perdition. On a peur, on craint de sombrer dans les erreurs, dans les péchés. Mais justement, ce Hudal al-Muttaqin, cette lumière, cette guidée, c'est pour te permettre également de ne pas te tromper, de ne pas commettre d'erreurs, de ne pas être détourné par les waswas de Shaytan, ou par ton nafs qui a maratum bisou, ou par l'ignorance, ou par d'autres choses. Les ulama disent, aucune élévation spirituelle possible, aucune atteinte de piété, aucune réelle proximité avec Allah, si on ne transite pas par la parole d'Allah. Totalement incohérent. Si on veut se rapprocher d'Allah, sans la parole d'Allah, c'est totalement impossible. Et dans l'islam, j'avais d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Vous voyez, après « Hudal al-Muttaqin », à partir de « Al-Ladin et Unna bil-Ghaib », vous voyez les cinq sifat et cinq qualités qu'Allah a citées pour être parmi les muttaqin. Vous voyez, dans le début du 18e juz, là je vous donne des pistes à étudier pour avoir les qualités intérieures. Lisez le tafsir de « Qatar falah al-Mu'minun ». Pas compliqué, là on a parlé du début du premier sibara. Lisez le tafsir du début du 18e. Les qualités pour être parmi les mu'minoun. Tout à l'heure, c'était pas pour les muttaqin. Ça, c'est les secrets du Coran. C'est pas des secrets. Ça, c'est le secret spirituel. Ça, c'est la solution à nos manquements qu'Allah Rabbul Izzah a révélé pour nous. Parce que ces versets, la plupart commencent par Ya ayyuhalladhina amanu. C'est pas Ya ayyuhas sahaba, Ya ayyuhan nabi. Il y a très peu Ya ayyuhan nabi. C'est-à-dire que le Coran est révélé pour nous. Et nous nous en privons, nous nous privons de son contenu. Je vais donner juste quatre exemples et on va conclure. On a besoin de versets clés. Il y a des fois où dans les bayans de Nika, pour ceux qui s'en souviennent, on donne trois ou quatre cadeaux aux jeunes mariés. Des versets clés qui nous permettent de voir le cheminement vers le salat al-mustaqim. Mais là, on a trois ou quatre versets sans faire de commentaires. Quand comme on a dit, le mu'min, c'est celui qui vit dans ce dunya. C'est pas celui qui se retire du monde. C'est pas un être, c'est pas un mode de vie réaliste. Le dunya, comment tu as vivre dans un dunya qui nous aspire et qui nous fait oublier le but de notre création? Tu dis que oui, quand les damas disent ça va, mais quand arrive dehors, il y a tellement de problèmes, tellement de stress à gérer, ben, il est normal qu'on oublie cette notion de piété. La solution, c'est de lire le tafsir du verset qu'on va citer, et de méditer sur son sens, de le comprendre, et que ce verset trouve la place de notre cœur, pas uniquement la mémorisation, mais la pratique, et Allah nous guidera. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisaa wal banin. Là, on est dans la sourate al-Baqara. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors, thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Je suis parti un peu vite. Mais tu réalises que tout ce qu'il y a, tout ce qui brille, tout ce qui brille, Allah dit que ça c'est zinatul hayati dunya. C'est l'objet de jouissance pour la vie présente. Wallahu indahu husnul ma'ab. Alors que c'est près d'Allah qu'il y a le bon retour. Et du coup, tu arrives à faire la part des choses. Même si je suis un homme d'affaires et que, mashallah, je gagne bien ma vie, que je vois des choses, j'arrive à produire des choses, je réalise que tout ça, c'est, ça a été qualifié de mata'ul hayati dunya. Et qu'Allah dit que wallahu indahu husnul ma'ab. Pareil. La suite du verset, ça c'est le boost spirituel. Après qu'Allah t'ait expliqué que tout ça, ça brille, le sens, hein, ça brille, mais ça n'a aucune valeur. Ce qui est auprès d'Allah, le retour auprès de Dieu, c'est le plus important. Allah t'explique maintenant. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ dit. Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Il n'y a que tout ce que tu vois briller et qui attire ton attention et qui occupe tes journées, tes semaines, tes mois, les années de ta vie, qui occupe ta vie, qui aspire ta vie, et pour lesquels tu te donnes sans relâche. Puis-je vous apprendre ce qui est beaucoup plus important que ça? لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتَ عَدْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah Rabbul Izzah ramène ton attention vers l'essentiel. Tout ce qui est autour de toi, ça t'attire parce que tu as été créé comme ça. وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا حُبًّا hein, إِقْبَال حُبًّا جَمًّا. L'être humain aime les biens de ce monde. Mais Allah te dit, certes, ça brille. Mais, قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ avec subhanallah, quelle bonté et quelle rahma. Allah nous explique, ne regardez pas, ne vous attardez pas sur ça. Est-ce que vous voulez, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout ça? Vous voyez toute la bonté divine dans la façon de nous enseigner que dans le Jannah, il y a telle chose, telle chose. Donc ça, c'est pour que le hubbu dunya ne nous fait pas sombrer. Et c'est une grande maladie spirituelle. Quand on est prouvé, on a des épreuves, maladies, décès d'un proche. Allah nous protège, divorce, problème de la famille, dette. C'est-à-dire le quotidien des ibtila, qu'on appelle les épreuves de ce monde. Bien inconscient, celui qui pense que uniquement en se confiant à ses proches, qui va s'en sortir. Bien inconscient, celui qui pense que j'ai trop de problèmes, je vais voir un psychologue. Et je vais lui expliquer mes problèmes, il va m'apporter des solutions. Il te donnera des pistes, mais la solution ne vient pas du psychologue, ni du psychiatre qu'Allah nous protège, ni des confidents, ni des médicaments, ni des anxiolytiques, ni des antidépresseurs. C'est pas ça qui règle tes problèmes. Tu veux la solution à tes problèmes? Donne un sens à tes problèmes. Parce que déjà, ne l'appelle pas problème, s'il te plaît. Ne l'appelle pas tes malheurs. Appelle-les épreuves divines. Appelle ces situations-là test de la part d'Allah. Lis le verset. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Wa lanabluwannakum la suite du verset. Wa lanabluwannakum bi-shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus. Allah cite toutes les difficultés qu'un homme peut vivre dans ce monde, et par analogie, on peut développer les autres qui vont se ramifier à ça. Mais à la fin, Allah dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, annonce la bonne nouvelle aux patients. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par une difficulté, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, nous appartenons à Allah et c'est auprès de lui que nous retournons. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, ça a été prédit et prescrit par Allah. Le plus important, c'est pas ce que je vis, c'est comment je retourne auprès de lui, parce que wa ilayhi raji'un. Ainsi, si je vis bien ces situations d'épreuve, je suis satisfait du destin d'Allah et je réponds à ses attentes, mon retour vers lui sera le meilleur des retours. C'est ça qui te booste spirituellement. Le Coran, les versets du Coran, ça donne un sens à nos ibadah et à notre vie. Quand on a le décès d'un proche, ce père de cet époux qui, après 45 ans de mariage, lui annonce que sa femme a eu un cancer et qu'elle quitte ce monde en deux jours. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah protège nos proches des épreuves et des maladies, de tout ce qui peut nous atteindre. Et Allah est Al-Latif Al-Khabir. Est-ce que cet homme-là, ce mari qui est maintenant veuf, ou ce fils qui vient de perdre son père ou sa mère, ou ce papa ou maman qui vient de perdre ses enfants, bref, décès d'un proche, est-ce que vous pensez que le soutien psychologique d'un professionnel sera suffisant? Là, wallah. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin des trois. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bish-sharri wal-khayr fitna. Fitna. Wa ilayna turja'un. On traduira un seul. Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien. À titre de tentation, c'est mal traduit, tentation, fitna comme épreuve, et c'est à nous que vous serez ramenés. Tu donnes un sens à ce départ qui est dramatique, et nous vivrons tous un jour un départ, soit nos ascendants, soit nos descendants, soit notre conjoint. C'est la sunnatullah fil hayakul nafsin dhaiqatul maut. Comment donner un sens à cela? En te raccrochant ces versets. Aucun être humain ne pourra t'apporter le réconfort que ce verset nous apporte. On vit dans un monde de péché. Les jeunes, quand ils parlent, disent, ils savent, les compliqués, ou connaît pas notre travail, ou connaît pas, il fait salon. Il dit que je vais à Genève, je vais à Paris, le fitna, et ainsi de suite. C'est compliqué de respecter tout ce que tu nous dis. Oui, c'est compliqué. On va pas marcher avec un moulissab H24 pour dire, donne-moi des conseils. Garde à ta tête, inna Allah alimun bi dhati s-sudur. Garde à ta tête, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez ce jour, vous serez ramené vers Allah. Gardez à l'esprit ce verset, Allah sait ce qu'il y a dans les poitrines. Celui qui a intégré ces versets de Muraqabatullah, la personne assurément ne met plus un pied de le haram. On a besoin des paroles d'Allah, du Coran, vivant dans notre cœur, pour trouver le droit chemin, pour éviter les pièges de shaitan. Et enfin, je conclurai avec ça, le mois de Ramadan, tout le monde fait doua. Comme on l'a dit en introduction, la beauté de notre masjid, 15 minutes avant l'iftar. Vous voulez donner la touche finale, là on parle plus de socle, de base et des ailes, on parle de la touche finale. Vous voulez donner de l'ampleur à vos doigts, lisez le tafsir, lisez, je ne vais pas le faire pour vous, lisez le tafsir, on n'est pas sorti de la sourate al-Baqara, 186, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Et va lire un tafsir qui est bien écrit. Les deux qu'on a cités sont magnifiques. Et vous allez même voir que grammaticalement, il y a des mots qui ont été supprimés d'une phrase normale. Fa'inni qarib, il manque quelque chose. Pas il manque, c'est Allah décrété que fa'inni qarib vient en réponse immédiate, sans être introduit par une autre formule, pour qu'on réalise que demande Allah est là. Demande Allah t'accorde. Ça booste tes doigts. Différence entre le doigt, alors, regarde, fais doigt, le Moussa fait doigt, amin, amin, et tu ne comprends rien du début jusqu'à la fin, ou les doigts inconscients, où on pense à autre chose, on s'arrête, on reprend. Et le doigt avec conviction, et Khoan, il fait là, quel est l'objectif de l'intervention? Réaliser que nous sommes dans un mois béni, on a accompli les bonnes actions, à nous maintenant de réunir les actions intérieures pour donner de l'ampleur à ces bonnes actions. La solution, c'est de le Coran. La solution, c'est l'étude des noms d'Allah. La solution, c'est la connaissance religieuse, tout ça nous permet de consolider notre iman afin que les bonnes actions qu'on est en train de cumuler, inshallah, apporteront leurs fruits. Nous levons les mains et nous demandons à Allah Azza wa Jalla, nous orientons nos cœurs vers Allah, dit Ya Rabb, qu'Allah nous accorde la hidayah, la guider, hudal lil muttaqin. Ihdina as-sirata al-mustaqim, on va pas faire un cours de langue, mais entre ihdina as-sirata al-mustaqim et la hidayah, voyez pas qu'il y a un point commun, il y a le ha, le da et le ya. Le ha, le dal, pardon, et le ya. On demande la même chose, ihdina as-sirata al-mustaqim, au moins 17 fois par jour dans la Fatiha. On demande à Allah la guide et la hidayah. Hudal lil muttaqin, ce sont les mêmes termes. C'est ce qu'on a besoin. Et nous demandons à Allah de nous guider. Le premier doua que vous faites, on demandera pour le jeune, c'est pas pour madame, pour les parents, pour le commerce, ou pour la santé, c'est, oh Allah, guide-moi vers le droit chemin, que je reste, que de jour en jour, mon iman augmente, mes actions s'amplifient. Donne-moi istiqama sur toutes les actions que tu me donnes, tawfiq, de faire maintenant, et que je meure dans ses bonnes œuvres, husnul khatima. On demande à Allah Rabbul Izzah la possibilité d'orienter nos cœurs vers lui, en transitant par ses paroles. Qu'Allah ouvre enfin nos cœurs pour étudier le Coran, afin de développer, étudier, pas lire seulement, développer, étudier le Coran, afin de développer une pratique qui doit être profonde, une pratique qui deviendra sincère, qui deviendra remplie de dévotion, et trouver ce mot magique qui est halawatul iman, qui nous permettra d'atteindre la piété et le ihsan, le plus haut degré de foi, afin que notre retour vers lui, ce sera un retour qui sera précédé de l'annonce de l'ange. Quelle annonce de l'ange? Ya ayatuha an-nafsul mutma'innah, irji'i, retourne vers ton Seigneur, radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati, wa ma tawfiqi illa billah, qu'Allah nous accepte, subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin, zakum khair.